Je veux réfléchir avec vous sur cette question. Comment aider ceux qui sont faibles? Quelle aide y a-t-il pour ceux, celles, qui sont faibles? Lorsque nous parlons de ceux qui sont faibles, je dois clarifier ce que je veux dire, parce que la Bible utilise le mot faible dans au moins trois sens. Il y a ceux qui ont une conscience très sensible, qui sont décrits comme étant faibles. Leur conscience leur interdit de faire certaines choses, et la Bible nous les décrit comme faibles. Même si pour nous, ils peuvent sembler avoir une conscience très très forte, très très active. Et ces personnes-là sont généralement assez strictes sur ce qu'elles font ou ce qu'elles se permettent de ne pas faire. Nous devons écouter notre conscience, mais nous ne devons pas être comme les faibles. Et puis il y a aussi faible dans le sens d'être éloigné de Dieu. Romains 5, verset 6 dit ceci: « Lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. » Être sans force, faible, c'est notre départ, notre point de départ. Nous sommes tous comme cela. Nous n'avions pas la force spirituelle de nous sauver. Personne n'a cette force. Tout le monde est faible. C'est pourquoi il nous faut un sauveur extérieur pour venir vers nous. Et si tu es nouveau au christianisme, tu ne connais pas trop les contours de notre foi, tu dois comprendre que la foi chrétienne commence par un aveu de faiblesse. On doit pouvoir avouer « je ne peux pas m'en sortir ». Mais Dieu sauve les faibles. Lorsque nous étions sans force, Christ est mort pour nous. Et donc dans le chant que nous chantons de temps en temps qui dit « le faible dit « je suis fort », c'est parce que nous reconnaissons que nous étions faibles, sans force spirituelle, éloignés de Dieu. Mais maintenant nous avons été récupérés par Dieu pour vivre et participer à la victoire et la puissance de Christ. Avec lui, nous pouvons gagner sur la mort et sur nos adversaires. Mais le message d'aujourd'hui ne concerne pas ces deux types de faiblesse, la faiblesse d'une conscience très sensible ou la faiblesse d'être éloigné de Dieu, mais un autre type de faiblesse. Et donc tous les textes de la Bible qui parlent de faiblesse ne sont pas nécessairement pertinents ce matin. C'est être un chrétien faible qui m'intéresse. Être un chrétien faible. Alors, y a-t-il des chrétiens forts et faibles? Quand j'étais jeune, je pensais que oui. Il me semblait clair que certains venaient de milieux chrétiens, étaient plus forts dans la foi, étaient plus établis et avaient plus de vie chrétienne que d'autres, et étaient donc des meilleurs chrétiens. Et puis, en grandissant, j'ai vu les choses autrement. J'ai compris que tous dépendent de la même grâce de Dieu. Tous, nous avons la même nature pécheresse à la base. Nous sommes tous faibles. Des personnes, même haut placées ou reconnues comme étant chrétiennes depuis longtemps, peuvent avoir une chute qu'on n'imaginait pas. Mais aujourd'hui, j'ai réfléchi à nouveau et je pense autrement. Il y a des chrétiens forts et il y a des chrétiens faibles. Les chrétiens forts sont mûrs, disciplinés, engagés, capables d'endosser plus de responsabilités dans l'Église et font plus. Et puis, il y a aussi des chrétiens faibles. Chrétiens, oui, mais moins actifs, moins confiants, moins productifs. Ils sont faibles. Je ne veux pas les excuser, mais je veux les comprendre et surtout, je veux les aider. Voici ce que dit la Bible. En introduction, 1 Thessaloniciens 5, 14 dit ceci, vous ne devez pas nécessairement le trouver, mais écoutez simplement. « Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles. » C'est trois catégories là de personnes. Mais on ne traite pas toutes les personnes de l'Église de la même manière, parce que nous n'avons pas tous la même situation, le même caractère, nous ne sommes pas tous les mêmes. Et quelqu'un qui vit dans le désordre moral n'a pas besoin de soutien, il a besoin d'avertissement. Quelqu'un qui dit « Ah, je veux quitter ma femme parce que je vais me mettre avec quelqu'un d'autre », on ne lui dit pas « Est-ce que je peux t'aider ?» Ce serait ridicule. Par contre, il y a des personnes qui sont abattues, qui ont besoin d'être consolées. Et puis, il y a des personnes qui sont faibles, décrites par la Bible comme faibles, et qui sont peut-être craintives ou déstabilisées. Elles ont besoin d'aide. Quelqu'un peut être généralement fort et solide, et pourtant passer par quelque chose qui se passe dans sa vie, une période difficile, où il est affaibli, physiquement, ou psychologiquement, ou même de manière spirituelle. Et donc on n'est pas nécessairement toujours fort ou toujours faible, mais on peut passer de fort à faible dans certaines épreuves. Alors ceux qui sont forts ? Je pense à ceux qui se réveillent le matin et qui prient, ils ont leur discipline journée, c'est leur routine, ils prient avec enthousiasme pour le Seigneur, la vie n'est pas facile pour eux, ils ne sont pas sans péché, mais ils ont leur stabilité de caractère qui font qu'ils ne sont pas troublés intérieurement. Leur mot d'ordre pour cette année qui commence, c'est « je continue » parce que je suis déjà sur une bonne lancée, je continue. Et ceux qui sont faibles, ceux-là se définissent plus par leurs échecs que par leurs réussites. Les échecs du passé les embêtent toujours. Le souvenir de ces échecs est pénible. Les faibles se définissent souvent par « je ne suis pas » au lieu de ce qu'ils sont. « Ah, je ne suis pas ceci, je ne suis pas comme ça, je n'arrive pas, etc. » Une définition négative. Les faibles ont du mal à prier, ne sachant pas si Dieu a vraiment envie d'entendre leur voix, et ils ne savent pas quoi prier. Les faibles ont le sentiment de ne pas savoir beaucoup sur Dieu, et avoir du mal à vraiment retenir ses promesses. Et leur confiance est donc vite ébranlée. Leur question principale pour l'année qui commence est « Est-ce que je vais y arriver ?» Peut-être que tu te reconnais dans l'une ou l'autre de ces descriptions. Description du fort, description du faible. La difficulté est que ces deux catégories existent. Et il est très difficile d'imaginer les autres. Le fort n'imagine pas le faible. Le fort dit, mais est-ce que c'est vraiment si difficile? Et le faible n'imagine pas le fort. Il dit, est-ce que c'est vraiment possible que les gens s'en sortent sans autant de difficultés que moi? Est-ce que je suis le seul à trouver que c'est difficile? Et donc ce message, c'est vrai que c'est orienté vers un sous-groupe. Ce n'est pas nécessairement pour toute l'Église, c'est pour ceux, celles qui se sentent faibles. Et j'espère vous aider. Qu'est-ce que le Seigneur fait pour ceux et celles qui sont faibles? Alors il ne va pas dire, non, tu n'es pas faible. Ce n'est pas ça. Et il ne va pas dire non plus, allez, débrouille-toi, on va voir, reviens plus tard quand tu n'es pas faible. Ce n'est pas ça. Regardez d'abord Hébreux, chapitre 4 de la lettre aux Hébreux. Hébreux qui se trouve caché dans la fin du Nouveau Testament. Hébreux chapitre 4, et je vais lire à partir du verset 14. Hébreux 4, 14, vous l'avez sous les yeux. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Et je veux lire aussi la suite, qui parle de manière un peu différente, mais ça va nous aider. Chapitre 5. En effet, tout grand prêtre, pris parmi les hommes et établi en faveur des hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. Ce que nous voulons retenir ici de ce que Dieu fait pour les faibles, c'est que le Fils de Dieu compatit à notre faiblesse. Fils de Dieu compatit à notre faiblesse. Le verset 2, en fait, ne décrit pas le Fils de Dieu. Le verset 2, c'est décrit les hommes qui sont nommés comme prêtres ou grands prêtres. Et Jésus n'est pas comme eux parce que Jésus n'est pas sujet à la faiblesse dans le sens de devoir offrir des sacrifices pour son péché. Il n'a pas péché. Mais ces versets 1 et 2 que j'ai lus nous aident parce qu'ils nous permettent de comprendre le faible. Qu'est-ce qu'on voit ici à travers ces versets sur les faibles ? Ils sont tentés. Ils ont besoin d'aide. Ils parlent de secours opportun. Ils ont besoin d'aide. Les faibles sont des personnes ignorantes, verset 2. Il y a une différence entre être enseigné et avoir appris. Parfois on dit, oui, mais il y a eu de l'enseignement à l'Église. Oui, il y a eu beaucoup d'enseignement. Mais est-ce que nous avons tous appris ? Malheureusement, nous pouvons rester ignorantes. Les personnes à qui cet écrivain écrivait, il leur disait, à ce stade, vous devriez en savoir plus. Mais ils n'avaient pas encore progressé. Elles étaient encore ignorantes. Et elles sont égarées. Verset 2, les personnes ignorantes et égarées. On pense à ce verset en Éphésiens 4 qui parle d'être ballotté et emporté par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté. Il y a des bons livres qui sortent et de bonnes initiatives, mais il y a aussi des moins bons livres et des vidéos, des enseignements qui circulent. Et il y a des chrétiens qui sont tellement déstabilisés, qui courent après la nouveauté en disant « Ah tiens, qu'est-ce que lui dit ? Quel est le nouveau programme ? Quel est le nouveau livre ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois croire ?» Et cela, sans que ces enseignements aient fait leur preuve, sans qu'on connaisse vraiment l'auteur comme quelqu'un de fiable. Et donc ils sont vite emportés par une dérive ou une autre. Ça, c'est être ignorant et égaré. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes ? Eh bien, le Seigneur est là, le Seigneur Jésus. Verset 14. Nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu. Il est là. Nous pouvons avoir comme idée que Jésus n'est pas là. Il n'est plus là. Ce qui est évidemment décourageant. Vous allez être plus obéissant et plus fort si vous avez le sentiment que Jésus est avec vous, à côté de vous, plutôt que de penser qu'il est absent. Et c'est vrai que Jésus est physiquement au ciel dans la présence de Dieu. C'est ce qu'il dit, il a traversé le ciel. Mais ce verset nous rappelle que Dieu a envoyé son Fils et que ce Fils existe. Il y a un grand prêtre. Et il y a toute la différence du monde entre avoir un sauveur et ne pas avoir de sauveur du tout. Nous avons un sauveur. Quelqu'un qui est prêtre, ça veut dire quelqu'un qui nous représente. Et il a fait le nécessaire. Regardez au chapitre 1, verset 3, le même thème, le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà notre grand prêtre. La mort de Jésus n'était pas la fin de Jésus. Notre foi n'aurait aucune raison d'être si Jésus était mort et resté mort au tombeau. Ce serait notre ancien grand prêtre. Ou ce serait notre feu sauveur, Jésus. Mais non, Jésus est vivant. C'est ce que ce passage nous rappelle. Le mot grand prêtre revient aussi au chapitre 3, verset 1, en disant « Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus. Pensons à lui. Nous professons notre foi. » Et notre texte, chapitre 4, verset 14, nous dit « Restons fermement attachés à la foi que nous professons. » Qu'est-ce que tu crois ? Est-ce que tu es capable de le dire ? Même tout simplement, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mon grand prêtre. Il a payé pour moi. Si c'est ce que tu crois, ben c'est tout simple. Tu dois rester fermement attaché à ta foi. Porter tes pensées sur lui. De jour en jour, chercher à le connaître mieux pour avoir plus d'assurance. Mais qu'en est-il de nos faiblesses ? Et le verset 15 nous révèle que Jésus comprend. Le mot est compatir. Compatit à nos faiblesses. Il a été à ma place. Jésus, en tant qu'homme, a connu les mêmes limitations que nous. Frustration, parents, frères, fatigue, rejet, pression, tentation. Il comprend. Vous vous souvenez quand il y a eu les inondations en juillet 2021 et le roi Philippe est descendu sur les lieux à Verviers. C'était beau, je ne critique pas ce qu'il a fait, c'était bien, un beau geste de compassion de la part du souverain. Mais la difficulté est celle-ci, qu'il ne peut pas comprendre. Sa maison n'est pas dévastée, ses biens ne sont pas démolis, sa vie n'a pas basculé dans le désastre. Il était là, mais alors il retournait dans son palais, pour vivre en sécurité et dans sa richesse. Et ça, c'est la différence entre compatir et comprendre. Jésus n'est pas seulement là-bas, en haut, en train de dire « Ah oui, c'est dur là-bas, vous autres, je suis désolé pour vous. » Jésus comprend, parce qu'il a été présent, là, il comprend pleinement ce que c'est l'épreuve, la tentation. Il n'a pas péché, mais il a été pleinement dérangé par la vie, par les circonstances de ce monde. Il comprend. Et ça, c'est beaucoup plus fort que compatir. Il comprend. Et il nous aide. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion, de trouver grâce pour être secouru. Peut-être que le mot aide vous semble faible. Vous dites, non, moi, Jésus sauve. Oui, amen. Mais ce n'est pas ici le salut dont il est question. Nous professons déjà la foi, verset 14, n'est-ce pas ? Donc ici, il écrit à des chrétiens qui sont déjà sauvés. Nous sommes sauvés. Mais parce que nous sommes faibles, nous avons besoin de quoi ? Son aide au moment précis. Nous avons besoin d'aide en ce moment. Et c'est justement ce qui nous est promis. Que lorsque nous venons à Christ, nous venons à Dieu dans la prière, il va nous donner un secours, son aide, au moment dans lequel nous sommes. Donc n'abandonnons pas notre foi. N'arrêtons pas de croire, de faire confiance à Dieu. Restons attachés à ce que nous croyons, les choses toutes simples. Jésus est le Fils de Dieu et il m'a sauvé. Dans l'Apocalypse, notre adversaire est décrit avec tous ses titres les plus effrayants. Le grand dragon, le serpent ancien, des mots qui expriment l'expérience du diable et sa puissance et sa ruse. Il appelait Satan l'accusateur de nos frères et sœurs. Et puis il est dit ceci. Ils l'ont vaincu, les frères et sœurs en Christ ont vaincu l'accusateur, grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. C'est en Apocalypse 12, verset 11. Le sang de l'agneau, Christ est mort pour nous, il a versé son sang pour nous, et la parole de leur témoignage, c'est-à-dire je crois en Christ et je tiens ferme à ma confession. Donc au lieu de regarder à nos fautes, regardons à Christ, l'agneau sans tache et sans défaut. Et au lieu de faire le travail du diable en nous rappelant nos fautes et en nous accusant, disons plutôt notre foi. Je sais que je suis justifié. Je sais qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Notre faiblesse ne devrait pas être une raison de perdre courage. Jésus est fort, et cela nous suffit. Nous devons aussi prendre au sérieux cet engagement, cet encouragement, cette exhortation à aller avec assurance au trône de la grâce. C'est-à-dire de ne pas avoir peur de demander l'aide de Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche de demander de l'aide ? On pense que Jésus est trop occupé ? Peut-être que ton père était toujours occupé, il disait « Ouais, va jouer, j'ai pas le temps pour toi, je suis trop occupé. » Et ça fait que tu as du mal à croire que Dieu, le chef de tout, s'intéresse à toi. Ou alors on garde le souvenir d'un échec, on dit « Oh, les autres ont le droit de prier, mais pas moi. » On a le sentiment qu'on ne va pas être accueilli favorablement. Hein, encore toi. Mais non, c'est un trône de grâce. Cette description du trône est une description qui donne envie de prier, n'est-ce pas ? Parce que là, on trouvera compassion, littéralement la miséricorde et la grâce. Et j'aimerais vous raconter juste brièvement comment Jésus a exprimé cette attitude dans quelques moments de sa vie auprès de personnes qui sont venues. On ne va pas lire les textes, mais je vais juste vous décrire quelques événements en Matthieu 8, 9 et Marc 9. Il y a un officier romain qui a demandé à Jésus qu'il dise un mot et que la maladie partira de son serviteur. Et pour lui, Jésus avait tellement autorité que le simple fait de le dire serait suffisant. Cet officier étranger avait beaucoup de foi, une grande foi selon Jésus. Par contre, il y a juste après quelqu'un d'autre qui vient, qui demande que Jésus vienne poser ses mains pour une guérison. Et Jésus y va. Il va chez lui. Il ne dit pas, Jésus ne rouspète pas en disant « Ouais, mais l'autre, il avait la foi, hein, je peux juste dire le mot et il va être guéri, hein, je peux le guérir à distance, j'ai pas besoin d'aller avec toi. » Jésus comprend que si c'est ce que la personne a besoin, qu'il l'accompagne, il y a déjà de la foi que Jésus va faire quelque chose et donc il y va, il l'accompagne. Ou il y a un lépreux qui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Quelle déclaration, n'est-ce pas? On comprend la puissance de Jésus là et il comprend que ça ne dépend que de sa volonté. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Belle expression de foi. Et Jésus dit « Oui, je le veux, sois pur. » Mais un autre homme a dit « Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Et Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et la réponse de l'homme là est intéressante. Il dit « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Et Jésus n'a pas discuté sur ce que tu as assez de foi, pas beaucoup de foi, etc. Il dit « Ok. » Et il guérit le fils de cet homme. Faible, hésitant, nécessiteux, mais croyant. Et Jésus veut vraiment aider. J'arrive pas vraiment à exprimer cela. J'étais en train de chercher des mots et j'en ai pas trouvé. Mais il a vraiment une abondance de volonté de secourir la personne qui est en détresse. Est-ce que nous pouvons nous en rappeler à ces moments où nous nous sentons faibles? C'est un peu ridicule, n'est-ce pas, de ne pas prier l'aide de Dieu quand on comprend toutes les ressources qu'il a et toute la bonne volonté qu'il a de nous aider. Mais parfois, je ne prie pas face à la tentation. Et je pense que c'est parce que je n'ai pas envie d'avouer que je suis tenté. Je suis gêné de devoir reconnaître ça devant Dieu. Seigneur, j'ai du mal avec cette tentation. Aide-moi. Je n'ai pas envie de prier cela. Et donc, j'essaye de m'en sortir moi-même en comptant sur mes ressources. Petite ressource de maîtrise de soi et de patience et de détermination, mais ce ne sont pas les mêmes ressources que celles de Dieu qui est tout-puissant. Alors ayons confiance en la compassion de Christ et son envie de nous aider. Mais ensuite, il y a plus d'aide. On va regarder Romains 8 maintenant, plus brièvement, mais pour nous encourager, Romains 8, quelques versets peu lus. Chapitre 8, versets 26-27. Vous les voyez ? Romains 8, 26. « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. » Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit de Dieu aide dans notre faiblesse. On avait déjà le Fils qui nous aide dans notre faiblesse. Et maintenant l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, va nous aider aussi. Une bonne nouvelle pour ceux qui se sentent faibles, n'est-ce pas ? Ici, la faiblesse, c'est le fait de ne pas savoir quoi prier. On avait parlé d'ignorance, parfois nous ne savons pas ce qui convient. Et puis, parfois dans la crise, il y a une sorte de paralysie. Où on se dit, qu'est-ce que je peux bien prier par rapport à ça? Qu'est-ce que Dieu veut? Nous sommes déstabilisés, n'est-ce pas, par les événements. Alors nous savons que nous devons prier, nous voulons prier, mais dans la souffrance, Tout ce qui sort, c'est des soupirs, des murmures, peut-être attachés au nom du Seigneur, avec respect, bien sûr, mais c'est tout ce qu'on arrive à produire comme prière. Et ici, il ne parle pas du parler en langue. Ça, c'est un sujet différent. Mais ce sont nos soupirs à nous, en tant qu'êtres humains. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que juste avant, au verset 22 et 23, il est dit ceci. « Nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la libération de notre corps. » C'est vraiment pour les chrétiens, n'est-ce pas? Nous avons le Saint-Esprit en nous, et pourtant nous avons ces soupirs qui sortent de nous. Et on ne sait pas quoi prier. Dans de telles circonstances, nous nous sentons faibles à cause de la difficulté de prier. Alors ça ne doit pas être une excuse pour devenir paresseux ou inactif, en disant « Ah, moi je suis faible, alors moi je ne prie pas ». Non, c'est un réconfort néanmoins de savoir que Dieu va nous aider dans ces moments-là, parce que l'Esprit est là. On va regarder le verset 27, regardez attentivement le verset 27, et je vais essayer de le décortiquer en allant. Et donc, Dieu qui examine les cœurs, il sait donc, il a une connaissance complète de ce qui est dans nos pensées. Il sait quelle est la pensée de l'Esprit, son Esprit Saint. Parce que c'est en accord avec lui, Dieu le Père, que l'Esprit intercède en faveur des saints, c'est-à-dire en faveur des chrétiens. La prière est une réelle activité où nous sommes engagés, nous prions, avec nos mots généralement, mais l'Esprit est à côté. Et l'Esprit est aussi en train de prier. Nous ne sommes pas seuls dans notre chambre ou seuls à la réunion de prière avec quelques-uns. Lorsque nous sommes là, c'est Dieu qui prie. L'Esprit parle au Père en notre faveur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quelle aide nous avons! Le Fils est notre représentant auprès du Père. Il a traversé le ciel. Et ici, nous voyons l'Esprit qui vient à nous et qui est en train de travailler, de prier pour nous. Il faut éviter de se décourager. Le diable essaye de nous décourager sans cesse. Il veut décourager les chrétiens. Parfois, nous n'avons même pas besoin de l'aide du diable, on se décourage tout seul. Mais il peut nous décourager par quelque chose qui est vrai à moitié. Je ne suis pas digne de tant d'amour. Je ne suis pas très performant. Et puis, on peut conclure quelque chose de faux. Alors, je ne suis pas aimé. Alors, Dieu ne peut pas me récupérer, moi. Au contraire, dans la bonté et la miséricorde de Dieu, aucun chrétien n'est méprisé, même les faibles. Et il peut se glorifier à travers nous. Vous savez, un pigeon est plus faible qu'un aigle. Pourtant, il y a beaucoup de pigeons à Bruxelles. Et quand vous verrez un pigeon, comment est-ce que c'est possible? Tous ces pigeons existent. Quand vous verrez un pigeon à Bruxelles, vous penserez à ça. Faible, et pourtant présent, toujours là. Alors je fais appel aussi aux autres qui sont forts, qui n'ont pas écouté jusque-là parce que vous n'étiez pas concernés, à pouvoir aussi prendre à cœur d'aider les faibles. La Bible nous dit, 1 Thessaloniciens 5, aidez les faibles, soutenez les faibles. Et pour cela, il s'agit de penser aux autres et de se mettre à la place des autres et de dire, qu'est-ce que ça doit être d'être une veuve? Qu'est-ce que ça doit être d'être une personne délaissée par ses parents ou un homme qui n'a jamais connu son père? Qu'est-ce que ça doit être de vivre avec les séquelles d'une addiction ou d'un abus, même si c'est du passé? Et ainsi, vous allez pouvoir comprendre pour soutenir et aider le faible par la prière ou par vos encouragements. Ils ont besoin de cela. Ou par votre solidité, que vous pourrez être quelqu'un de fiable dans leur vie. Mais je dois néanmoins dire une chose, que personne n'utilise la faiblesse comme prétexte pour pécher. Ce serait m'écouter de travers de comprendre cela comme ça. On ne peut pas dire, « Ah, mais c'est mon point faible, c'est mon orientation, je suis comme ça. » Et donc, je continue à pécher, et puis voilà, Dieu va devoir s'habituer à ça. Non! Il n'y a pas de péché que Dieu puisse juste accepter comme faisant partie de notre vie. Nous ne pouvons pas être dans les abonnés absents à la sanctification. Il y a des choses à améliorer. La faiblesse n'est pas la même chose que la rébellion. La faiblesse, c'est reconnaître nos faiblesses, nos manquements, et de vouloir faire mieux. et essayer malgré tout. Alors je termine avec ces mots de Paul en acte 20, 32. « Maintenant, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tout son saint peuple. » Vous voyez, il n'y a pas un programme spécial. On y arrivera comme les autres chrétiens. On compte sur Dieu dans la prière et on lit la parole de Dieu, la parole de sa grâce, pour nous édifier, parce que cette parole a la puissance de nous édifier. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions que Jésus est l'ami des pécheurs, sans aucun compromis, sans aucun péché de sa part. Sa sainteté est intacte. Il n'a pas été contaminé en étant ici sur terre. Mais il est ami néanmoins par un amour qui nous dépasse et que nous trouvons si extraordinaire que nous avons du mal à y croire parfois. Viens au secours de notre incrédulité, de notre faiblesse, de notre manque de maturité ou de sagesse et tout autre manquement. Nous ne voulons pas nous féliciter, mais nous voulons, tendre Père, vivre proche de ton trône et rempli de ton Saint-Esprit par la grâce, la compassion qui découle de toi. Et si j'ai dit quoi que ce soit de faux ou d'exagéré ce matin, permets que ce soit oublié, mais que tous nous soyons encouragés dans notre sainte foi à compter sur la vérité que tu nous as transmise dans la Bible. Que Jésus soit notre force et notre appui. Amen.